Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vos deux chroniqueurs. Céline, le débat se poursuit. Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction.
Et William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1, on continue à parler de cette opération d'envergure, opération Placenet XXL à Marseille, la visite surprise d'Emmanuel Macron, la déclaration du Eric Dupond-Moretti dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est Annie qui nous écoute dans l'Ain, qui nous appelle. Bonjour.
Bonjour.
Un grand merci de nous appeler Europe 1 13h. Vous vouliez réagir sur ce sujet de la drogue et des consommateurs aussi.
Voilà, oui, moi il me semble que tant qu'on va pas s'attaquer aux consommateurs, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de petits dealers. Il me semble que c'est vrai, comme dit Monsieur Dupont de Moretti, dans les grandes villes, il y a certains petits jeunes bien établis qui s'amusent à se droguer et qui montrent de mauvais exemples et ils sont jamais attaqués. Mmh. Alors, ça peut durer comme ça pendant des siècles.
Mmh. Merci Annie, effectivement, vous avez raison, il faut s'attaquer sans doute aussi aux consommateurs, et c'est tout l'enjeu de la discussion que nous allons avoir maintenant, puisque je reprends les propos d'Éric Dupond-Moretti, qui était invité ce matin chez nos confrères de RMC. Le petit pétard fumé par le bobo du samedi soir a le goût du sang séché sur le trottoir. Charlotte Dornelas.
Oui, c'est vrai pour le petit bobo. J'ai pas l'habitude de prendre leur défense, mais maintenant la consommation de cannabis dépasse largement les frontières de Boboland, hein, si je puis me permettre.
Je crois qu'on est le pays où on en consomme le plus en Europe.
Ah oui, non, mais le cannabis c'est vraiment c'est à peu près partout, même en territoire rural. D'ailleurs, on voit il y a un rattrapage total, et même sur la question de la coke. Donc et le cannabis, il y a eu non seulement une acceptation. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que même la justice et les magistrats l'expliquaient très bien la semaine dernière, ils sont déjà dépassés dans la répression des trafiquants, des dealers et des têtes de raison, comme expliquait William. C'est après un très long travail d'enquête, oui, pardon, que vous arrivez à taper une tête de réseau, ce qui d'ailleurs là, ce qui est parfois rendu extrêmement compliqué par une présence massive et permanente sur le terrain et le pilonnage des points de deal, hein, ça complique le travail d'enquête. Donc vous voyez que c'est un dosage qui est pas évident. Déjà ça, c'est extrêmement compliqué pour la justice. Donc sur la question du consommateur, on a mis en place ces fameuses amendes,
oui, c'est ça,
forfaitaires, mais les amendes, en fait, certains s'arrangent plus en les réglant qu'autre chose. Et évidemment, il a raison, mais simplement là, c'est aussi un retournement dans notre manière de le concevoir. C'est-à-dire que la question du cannabis, maintenant que énormément de personnes, et je pèse mes mots, enfin c'est vraiment une partie massive de la population partout sur le territoire qui consomme du cannabis, après des années de relativisme cool sur la consommation.
Il y a un côté festif, voilà, il y a plusieurs façons de consommer.
Déjà, on nous a expliqué pendant des années que c'était une drogue douce. Il faut voir quand même dans les cabinets de médecins les effets du cannabis, notamment sur le cerveau des plus jeunes, pour voir que je sais pas qui a trouvé que c'était doux, mais alors peut-être non, par rapport en effet à l'héroïne ou à la cocaïne, mais déjà cette terminologie était déjà relativiste, quoi, on va dire, dans la manière de le présenter. Et puis il y a aussi en effet un côté cool et festif qui a été porté, alors là je rejoins Éric Dupond-Moretti, par des milieux plutôt bobos et voire culturels même dans la manière de l'accepter. Donc tant mieux.
Oui, il parle de petits bourgeois aussi.
Oui, non mais c'est ça, mais tant mieux si on le fait. Maintenant, si c'est juste du déclaratif à la télé, on tape sur le petit bourgeois pour expliquer que la drogue, c'est pas simplement une affaire de cité. Faut aller un peu plus loin que ça, on va dire, dans la volonté de frapper. Mais moi, j'ai aucun problème, en effet, à ce que le consommateur soit sanctionné, parce que là où il a raison, c'est que tous ceux qui participent de ce trafic, on le sent de ces gamins de 13 ans, les fameux petits jobbers qui sont sur les points de deal, qui se font jambiser, qui se font parfois même tuer pour le compte de ceux qui consomment. Ça, c'est indiscutable.
Je rappelle que la législation sur les drogues, c'est la loi du 31 décembre 1970. Donc plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle. Et en réalité, elle se fonde sur deux piliers. Lutte contre la criminalité, le trafic, et le problème de santé publique, les usagers. Il ne faut pas oublier cette dimension de santé publique. Je vous parle d'expérience. Moi, pendant 10 ans, donc, j'ai été juge d'instruction spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants à Lyon.
Oui.
Dieu sait, c'était une place aussi concernée par le trafic. Comment je procède? Je vous assure qu'en 10 ans, je n'ai jamais incarcéré un seul usager de stupéfiants. Jamais.
Ah bon?
Comment je procédais à l'époque? Je plaçais sous contrôle judiciaire avec injonction de soins qui est prévue par la loi de 1970. Ordonnance, injonction de soins. Il est obligé d'aller voir un médecin. Le médecin le prend en charge, voit quelle est son addiction, s'il a besoin d'un traitement, et je le confie à une association. Voyez-vous? Et régulièrement, je rencontrais les associations qui me tenaient au courant de l'évolution du toxicomane.
Oui.
Est-ce qu'il s'en sortait? Est-ce qu'il avait un hébergement? Est-ce qu'il suivait bien son médecin? Quelquefois un psychologue. Quelquefois ça relevait simplement d'un médecin psychologue ou d'un expert. Et on arrivait comme ça petit à petit, avec un suivi en profondeur, ça demande des moyens et de l'investissement, à éloigner le consommateur du produit stupéfiant.
Oui. Vous voyez,
c'est pas en mettant un amende forfaitaire.
Donc vous êtes plutôt sur la pédagogie plutôt que la répression, en tout
mais
cas
parce
financière.
Que ce sont des malades.
Oui.
Un dealer, il est à la fois usager, revendeur, mais il est aussi malade de sa toxicomanie. Il a des besoins. Et ça, c'est un problème de santé publique. Il faut le prendre dans cette dimension-là. Et pas avec une amende forfaitaire, parce que les causes resteront les mêmes.
William, je voulais juste rappeler que l'AFD, donc qui est l'amende forfaitaire, qui a été présentée comme une réponse au trafic de stupéfiants. En fait, pas du tout. L'AFD, c'est une réponse au travail de la police, c'est-à-dire à l'encombrement des procédures. Et c'est finalement, plutôt que de faire une procédure qui serait longue, on met une amende. C'est uniquement une façon de traiter un contentieux de masse et non pas du tout de répondre à une problématique de stupéfiants.
On va écouter, Marion Maréchal, qui était l'invité ce matin de Pascal Praud. Donc, Pascal Praud et vous, tête de liste, Reconquête, je le rappelle, aux élections européennes. Et elle a une solution pour lutter contre le narcotrafic. Écoutez.
Je crois que la solution, elle n'est plus dans la demi-mesure ou simplement une présence policière. Elle est, selon moi, dans un modèle qui est pas très loin de chez nous, qui s'appelle l'Italie. Et qui devrait nous inspirer, qui est celui du modèle des lois anti-mafia italiennes, qui sont des lois d'exception, qui ont, entre autres choses, pour objectif de mettre en place, et c'est une demande d'ailleurs des magistrats, des tribunaux spéciaux anti-drogue. En fait, un ensemble de modalités qui relèverait d'un régime d'exception, parce qu'on n'est pas simplement face à une délinquance classique, on est face à une guerre qu'il faut réussir, à gagner, parce que si on ne réagit pas, la conclusion, c'est qu'on va se retrouver comme avec la mafia en Italie, ça veut dire un système de corruption généralisé, et les magistrats en parlent déjà, non seulement peut-être dans la police, mais aussi auprès des magistrats et peut-être demain des politiques.
Marion Maréchal, ce matin, chez Pascal Praud, tête de liste Reconquête, c'est quoi ces solutions, ces lois dont parle Marion Maréchal, Georges Fenech? Est-ce que c'est approprié?
La loi prévoit déjà, pour les grands trafiquants, l'importation par exemple, le crime. Hein, puisque c'est jugé par des cours d'assises, c'est déjà prévu. On avait introduit ici dans les lois Perben des dispositions pour protéger ceux qui effectivement dénoncent un peu la loi repenti. Ça existe déjà en réalité.
Ouais.
Bon, c'est pas l'exonération.
C'est pas abouti comme en Italie.
Sans doute faut-il aller plus loin, si vous voulez. Mais on a ces dispositifs. Ce qui nous manque en réalité, c'est une volonté et par manque de moyens aussi de saisir ces cours d'assises. Alors on correctionnalise, on fait comme si c'était un délit, on disqualifie. Oui. Alors que ce sont des faits qui mériteraient effectivement des jugements devant des cours d'assises et des peines de réclusion criminelle.
Donc ce que propose Marion Maréchal, est-ce réalisable sur notre territoire?
Oui, c'était réalisable, mais encore faut-il le vouloir. Je ne suis pas certain qu'Éric Dupond-Moretti s'inspirera du régime italien.
Charlotte Dornelas.
Non, mais c'est sûr que sur toute la partie judiciaire et même à partir de, parce que en effet les lois anti-mafia, c'est des lois d'exception. On se dit on a un problème qui est massif et on ne peut pas répondre de la même manière que le tout venant Marseille. Quand même, les magistrats nous rappelaient que c'est 20% de l'activité juridictionnelle à Marseille, c'est 9% sur le reste du territoire qui est directement lié au stup. Quand ça atteint 20% de l'activité juridictionnelle de votre ville, il est temps en effet de se réveiller et de savoir s'il est adapté. Or, les magistrats, ils ont décrit tout le processus et pourquoi c'était absolument inadapté du début de la procédure pénale. Bon, ça, les policiers nous le disent du matin au soir sur la question bureaucratique, mais la question des recours, quand vous avez, pareil, ils nous disent le nombre de recours possibles et de demandes de nullité sur une procédure, évidemment, vu l'ampleur qu'a pris la procédure, est complètement dingue. La moyenne d'examen d'un recours sur une procédure, c'est un an à Marseille. Un an. Donc vous pouvez pas vous en sortir, ça met des années et des années. Et quand en plus, vous tapez sur le terrain et que vous obtenez le bas de l'échelle, le gamin de 17 ans, qui si possible est mineur étranger, donc impossible à identifier, vient de partout en France, parce que si les têtes de réseau ne sont plus à Marseille, en revanche, eux, ils font venir de partout en France pour avoir précisément des gens qui ne sont pas identifiés par les policiers locaux. Enfin, vous voyez que c'est impossible.
Très compliqué.
Donc eux demandaient une simplification drastique de manière générale de la procédure, en particulier sur la question du stup et d'une réduction elle aussi drastique du nombre de recours et de la mise en place d'un système carcéral d'exception, d'un système carcéral beaucoup plus dur, avec évidemment des brouilleurs, parce que quand ils continuent à gérer et le trafic et les règlements de compte depuis la prison, c'est quand même le degré ultime de l'humiliation.
De Dimitri Pavlenko.
Donc en effet, c'est clairement un régime d'exception là qui est réclamé par les policiers depuis très longtemps, par les magistrats eux-mêmes à Marseille, mais Éric Dupond-Moretti n'en est pas là, ça c'est sûr, dans sa réflexion.
Molinier. Effectivement, le travail des policiers, c'est complexe, quoi.
Oui, c'est complexe. Alors, sur les lois anti-mafia, effectivement, ce sont des lois d'exception, je ne sais pas. En France, ça fait des dizaines d'années qu'on vit dans l'exceptionnalité, en fait. Donc, est-ce que vraiment il faut des lois d'exception? Je pense que ce sont des lois qui doivent rentrer directement dans le droit commun. Ça fait des dizaines d'années qu'on connaît cette situation dite exceptionnelle. À force, ça ne devient plus exceptionnel, c'est rentré dans le commun des gens. Donc, je m'interroge sur ce côté exceptionnel.
Conclure, Jean-Fenech.
Un petit cas concret. Un dealer. Ah, c'est intéressant déjà.
Oui.
2 ans de prison ferme. Il sait qu'au bas mot, il effectuera 6 à 8 mois, pas plus déjà, avec la libération, les ruses de peine, etc. Il rentre, il sait qu'il aura sa consommation, son shit. Et il sait qu'il aura son portable. On a saisi chaque année à peu près 30 000 portables dans les prisons françaises. Donc, est-ce que vous croyez que ça peut dissuader quelqu'un qui gagne 80 000 ou 100 000 euros par mois? Pas du tout. Donc, tant qu'on n'aura pas effectivement fait des prisons étanches, mais véritablement étanches avec les brouilleurs, effectivement, peut-être des quartiers entièrement dédiés à cette population, et tant qu'on n'aura pas exécuté intégralement la peine, eh bien, on continuera à avoir des gens qui sortent, rentrent, et puis continue.
Et la prison devient un marché de stupéfiants.
Ouais. En plus,
le sujet effectivement intarissable, on pourrait en parler encore longtemps. En attendant, on va se retrouver dans quelques instants. Tiens, on va écouter Marion Maréchal, la stratégie reconquête pour les européennes. Le parti qui veut rattraper l'électorat de Zemmour, tenter de rallier le Rassemblement National. On va en parler avec vous auditeurs d'Europe 1 également. Et puis, vous restez bien sûr avec nous, 01 80 20 39 21. À tout de suite.
Bon début d'après-midi avec Céline 0 de 13h à 14h sur Europe 1.